Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Renaud Broukis
et Martine Monti,
avec à la réalisation Nancy Zautier. Ce soir, nous vous invitons à réfléchir au terme de la précarité et de la solidarité. De tout temps, la pauvreté et la misère ont fait partie de nos sociétés. La pauvreté a complané d'exclusion sociale, a inspiré des politiques réformistes, comme l'instauration d'un salaire minimum, la réduction du temps de travail, ainsi que des mouvements politiques révolutionnaires, tels que le socialisme, mais aussi des actions d'entraide et de solidarité. Depuis les années 1970, la notion de précarité est apparue. Elle englobe l'instabilité dans tous les aspects de la vie. Travail, revenus, logement, santé, vie familiale et sociale, accès aux services. Au niveau des droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille ». Mais en France, plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit environ 15% de la population française. L'État, les collectivités locales et territoriales et de nombreuses associations se mobilisent pour venir en aide aux personnes en situation de précarité et pour enrayer les mécanismes qui y conduisent. Selon l'Ipsos, les Français conservent un niveau d'engagement important et stable cette année. Ainsi, 76% déclarent aider financièrement leurs proches ou être prêts à le faire, une proportion en hausse par rapport à 2024. De même, 61% font ou seraient prêts à faire des dons alimentaires ou matériels à une association de solidarité et 48% à consacrer du temps bénévolement à une association de solidarité. Cette stabilité dans l'engagement montre que les Français ne cèdent pas à une lassitude dans l'entraide, dans un contexte de crise à répétition et de difficultés sociales. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est la précarité et voir ce qui est mis en œuvre, particulièrement dans le Pays de Grâce, pour la combattre, à travers l'engagement d'une association, les Cristaux du Cœur, dont nous avons le plaisir d'accueillir ce soir la fondatrice et présidente Christine Boada. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale avec le mendiant de l'amour d'Enrico Macias.
L'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque. Surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses, car maintenant le bonheur n'est plus à vendre. Le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. De compte à rendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, donnez, de donner, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez, de donner, Dieu vous le rendra. Donnez, donnez, de donner.
Bonsoir Christine Boada.
Bonsoir.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais, avant que nous rentrions dans le vif du sujet et que vous nous parliez de l'Association des Christos du Cœur, que vous nous présentiez tout d'abord votre parcours personnel et que vous nous disiez comment et pourquoi est venu votre engagement dans la solidarité et l'aide aux plus démunis.
Je suis originaire des Pyrénées-Orientales dans le 66. Je suis née donc à Perpignan. J'ai vécu dans une ferme qui s'appelait le Masphage. Je suis issue d'une famille d'ouvriers. Mon père travaillait dans les vignes et ma mère ne travaillait pas. J'ai eu une enfance merveilleuse où on allait à pied à l'école. On faisait 3 km pour aller à l'école et 3 km pour revenir. Ma mère a toujours invité des tas de personnes à table. On était toujours une dizaine, une quinzaine. Je disais à ma mère, mais il n'y a que 4 morceaux de viande, comment on va faire ? Et ma mère me disait, quand il y en a pour 4, il y en a pour 10. J'ai toujours été élevée dans ce contexte où il fallait toujours tout donner.
Et c'est ça qui a suscité votre envie de vous engager ensuite ?
Oui, parce que j'ai appris en grandissant que quand on donne, eh bien, on reçoit énormément. On reçoit des sourires, on reçoit des compliments, de la chaleur humaine et j'ai besoin de me nourrir de ça.
Et donc ensuite, dans le restant de votre vie, une fois que vous êtes devenu adulte, vous avez cherché à poursuivre finalement
oui,
cette ouverture.
J'ai toujours donné. Quand j'étais au collège, je donnais la moitié de mes cahiers, je donnais mes pains au chocolat, je donnais mon goûter. J'ai toujours donné. Je suis pas quelqu'un de matérialiste. J'aime donner, j'aime faire plaisir aux gens et parce qu'il y a toujours pire que soi.
Et donc ça vous a poussé à vous engager dans des associations ou des mouvements d'accueil ?
Alors ce qui m'a poussé, c'est lorsqu'on a déménagé de cette ferme, qu'on est allé vivre à l'âge de 12 ans dans un village qui s'appelle Rivesaltes. Ma mère avait instauré que dans cette rue, à la nuit tombée, toutes les personnes qui étaient dans le besoin, chaque personne devait lui déposer de la nourriture devant la porte. Jusqu'à que, en fait, on puisse plus voir la porte. Ma mère avait instauré ça et moi, je pensais que ma mère était folle. Jusqu'au jour où j'ai ouvert la porte pour aller au collège et j'ai pas pu sortir tellement qu'on avait de nourriture. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, quand on donne, on reçoit.
La solidarité, c'est efficace.
Voilà, c'est ça. Et à plusieurs, on peut faire plus de choses.
Et donc, entre ce moment-là et puis les Christos du Cœur, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors moi, ma passion première était de m'occuper des personnes âgées en fin de vie. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans. Je travaillais dans les maisons de retraite où voilà, je m'occupais des personnes pour qu'elles soient toujours propres, toujours dans la bienveillance, la gentillesse. Si j'allais quelque part et qu'il fallait laisser ma place à quelqu'un, je laissais ma place à quelqu'un. C'est les autres avant moi.
Ça a été votre métier ?
Ça a été mon métier.
Et ça, c'était toujours à Rivesaltes. Vous êtes arrivé quand dans les Alpes-Maritimes ?
Alors, je suis arrivée dans les Alpes-Maritimes à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 55. Et j'ai travaillé aussi dans les maisons de retraite. J'ai fait du bénévolat au Resto du Cœur, à Saint-Laurent-du-Var.
Et donc, dans votre vie ensuite personnelle, familiale, vous avez cherché à continuer à promouvoir effectivement cet esprit d'ouverture, d'accueil, d'entraide ?
Oui. J'ai 5 enfants et j'ai inculqué à mes enfants la même chose, de toujours donner. Quand il fallait vider la chambre et donner les affaires, les jouets, quoi que ce soit, mes enfants sont pires que moi.
Et du coup, ils vous suivent et ils participent également aux associations auxquelles vous avez donné un coup de main ou que vous avez créé.
Oui.
Et alors maintenant, d'un point de vue professionnel, vous en êtes où actuellement ?
Alors, je suis agent de convivialité.
Qu'est-ce que c'est qu'un agent de convivialité ?
Un agent de convivialité est une personne qui va à la rencontre des personnes isolées dans le Haut-Pays Grassois et qui répertorie ces personnes et qui les amène où elles ne peuvent pas aller parce que chez nous, les transports c'est compliqué. Du coup, je les amène faire les courses chez le dentiste, au cardiologue. Je ne suis pas un taxi parce que je ne prends pas les bons de transport. Je suis un agent de convivialité qui peut venir vous voir, passer une après-midi avec vous, vous aider à faire une couleur.
Et tout ça, c'est fait de façon, je dirais, dans un cadre professionnel, mais de façon bénévole. Vous ne demandez pas de participation aux gens auprès desquels vous intervenez.
Pas du tout, c'est mon métier, agent de convivialité.
D'accord. Vous êtes payé donc par...
Je suis fonctionnaire depuis... je fais ce métier depuis 2021, le 1er septembre 2021. Je suis agent de convivialité pour la CAPG, dont Jérôme Viau est le président.
Alors la CAPG, c'est la communauté
d'agglomération du Pays de Grasse. Voilà, Monsieur Viau, qui est un homme de cœur, m'a confié les 12 communes du Haut-Pays. Ça débute à Escragnole et ça finit par Colongues. Donc je répertorie les personnes isolées, les personnes âgées, et voilà, on fait des sorties. Quand il y a des choses organisées chez nous dans le Haut-Pays, des après-midi pour faire des jeux ou pour faire cuisiner, ben on les transporte.
D'accord. Donc vous faites de l'aide aux personnes, je dirais, en précarité. Vous avez également des actions préventives pour éviter justement, et on y reviendra plus tard, que certaines personnes ne tombent dans la précarité.
Oui, non, parce que notre association a débuté en 2020. Mais avant que j'ouvre mon association, je travaillais pour le CCAS de la mairie d'Andon pendant 5 ans.
Donc c'est l'arrière-pays est un endroit que vous connaissez bien.
Oui.
Vous avez dû tisser pas mal de liens sociaux et c'est particulièrement important, je pense, dans ce type d'action.
Oui, parce qu'on fait des après-midi et des manifestations gratuites pour tous les gens qui viennent vers nous. On offre le goûter, on offre les boissons, on offre le repas. Et c'est ça qui crée un lien chez nous dans le Haut-Pays.
On va rentrer, surtout en deuxième partie, dans ce que concrètement vous faites dans le cadre des Cristaux du Cœur. Mais auparavant, j'aimerais qu'on brosse un peu un tableau de la situation. Alors, peut-être pas nationale, mais Martine l'a évoqué déjà tout à l'heure. Déjà, donner la définition de ce qu'est la précarité. Selon l'OMS, la précarité, c'est l'absence d'une ou plusieurs sécurités telles que l'emploi, l'alimentation, la santé, etc., qui permettent aux personnes et aux familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Voilà. Et donc, comme c'était rappelé dans l'introduction, il y a à peu près 15%, un peu plus de 15% de la population qui, en France, vit en état de précarité, c'est-à-dire avec un salaire qui est inférieur à 1291 euros par mois, salaire net, je précise. Et donc, en France, en particulier dans le domaine de l'alimentation, qui est un des aspects de la précarité, il y a un tiers des personnes, de ces personnes, qui ont recours à l'aide alimentaire. Donc c'est énorme, ça permet de saisir l'importance de la situation de ces gens. Au niveau, je dirais, de notre CAPG, de notre communauté d'agglomération, qu'est-ce que ça regroupe comme nombre de personnes totales en termes de population et quel pourcentage de cette population ça touche à peu près?
Alors nous, donc on aide les gens qui sont dans le Haut-Pays,
oui,
dans le 04, puisqu'il faut savoir que dans le Haut-Pays, on est à la limite de 3 départements, le 04, le 83 et le 06. On intervient aussi dans le 83 et on intervient aussi du côté de Roquestéron, Toudon, Plan du Var. Voilà.
Dans le cadre associatif, mais également dans votre cadre professionnel?
Non, dans mon cadre professionnel, c'est uniquement les 12 communes du Haut-Pays.
D'accord. Et vous avez une facilité à jongler entre vos deux fonctions, finalement?
Alors, moi, je suis agent de convivialité du lundi au vendredi. Lorsque je finis ma journée d'agent de convivialité, je mets ma casquette associative. Je prépare les paniers alimentaires, je vais à la rencontre des gens chez eux. Des fois, je fais 2 heures de route. Je fais des déménagements et le week-end, j'emploie les 2 jours à mon association.
D'accord. Alors, justement, dans le courant de la semaine, je pense que vous travaillez avec le plan alimentaire territorial de la CAPG.
Oui, pour l'instant, c'est en étude. On a une réunion lundi matin.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement ce que c'est que ce plan alimentaire territorial?
Alors en fait, c'est ce plan est fait pour venir en aide à toutes les associations qui vont aider, qui aident les personnes en précarité. Donc ils sont en train de trouver des solutions, notamment pour nous dans le Haut-Pays, pour savoir comment ils pourraient nous aider. Parce que lorsqu'on on vient du côté de Grasse, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile du côté de la ville que du côté de la montagne.
À cause de quoi? De la proximité des services?
De la proximité des services. Nous, par exemple, on va récupérer la nourriture dans 6 magasins mais qui sont uniquement dans le 04 et dans le haut pays et du côté de Nice. C'est très compliqué pour nous d'essayer d'avoir de la nourriture du côté de Grasse ou de Mandelieu ou Cannes, parce qu'il y a déjà beaucoup d'associations. Nous, à chaque fois qu'on fait un déplacement, dans la journée, on fait entre 200 et 350 km pour aller récupérer de la nourriture. Quand vous êtes une association basée sur Grasse, vous n'avez pas autant de routes
à faire. Effectivement, que dans l'arrière-pays.
Voilà.
D'accord. Alors donc, justement, dans cet arrière-pays sur lequel vous travaillez, quelle est la situation? Quels sont les profils des personnes en précarité que vous rencontrez?
On a beaucoup de personnes âgées qui ont des petites retraites qui sont bloquées. On a pas mal de familles monoparentales, des personnes aussi qui se séparent. Mais on a aussi des gens, des couples qui travaillent à deux. Et il leur arrive d'avoir un accident de la vie, la voiture qui est tombée en panne, donc ils n'arrivent pas à faire les courses. Donc on intervient aussi.
Vous avez également des populations de type migrants ou personnes déplacées, des étudiants
Non, pas dans le haut pays.
Pas dans le haut pays. Ce sont essentiellement familles monoparentales, personnes
personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées.
Et donc le problème qui se pose, c'est d'abord le problème de l'aide alimentaire ou c'est une rupture de liens sociaux, des problèmes de santé?
Alors, les gens ont tendance à monter dans le haut pays parce que, il faut dire ce qui est, les loyers sont beaucoup plus abordables chez nous, dans le haut pays, que du côté de Grasse. Mais il faut savoir qu'on peut tomber à moins 10, moins 15 l'hiver. Donc, le chauffage coûte très cher, donc c'est là où on intervient aussi. On achète des poêles, on achète le pétrole, parce que pas mal de personnes âgées ne peuvent pas se chauffer.
Se chauffer ou faire leur cuisine. Parfois, n'ont pas de quoi faire leur cuisine, peut-être.
Non, on a de plus en plus de personnes à qui on achète des plats tout près.
Est-ce que vous avez des personnes qui sont mal logées dans l'arrière-pays? Est-ce qu'il y a des problèmes de logement? Vous évoquiez le fait que les loyers étaient moins chers là-haut que sur la côte. Est-ce que vous avez des personnes qui ne peuvent pas payer leur habitation?
Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas payer.
Et donc, dans ce cas-là, vous leur trouvez un hébergement?
Voilà, on essaye de trouver un hébergement ou alors de meubler au maximum. L'avantage de notre association, c'est qu'elle a, on nourrit, on meuble et on habille gratuitement. Du coup, on a pas mal de meubles et quand on sait que quelqu'un dort par terre sur un matelas, on va intervenir, on va amener un lit, on va changer le matelas s'il y a besoin, on va amener des couettes, des coussins, on va faire le maximum pour que cette personne soit bien.
Ça, vous le faites dans le cadre de l'association et dans le cadre de votre travail. Effectivement, dans la CAPG, vous avez également ce même rôle d'accueillir, de nourrir les gens, de
les loger ? Pas du tout. Moi, je suis juste chauffeur. Je tends mon oreille, j'écoute. Et s'il y a des difficultés plus graves qui me dépassent, j'avertis le maire de la commune en disant « Attention, cette personne n'est pas très bien ». Parce que je n'arrive pas à tout faire et que je n'ai pas les compétences non plus pour tout faire.
Pour tout résoudre. Voilà. Donc vous avez un rôle de lien social absolument fondamental. Et de ce point de vue-là, quel est le rôle, alors pas seulement de Jérôme Viot, le maire de Grasse, ou de la CAPG, mais des autorités de manière générale? Est-ce qu'elles sont vraiment sensibilisées à ces problèmes de précarité?
Ah oui, les 12 maires du Haut-Pays sont formidables, ils sont à l'écoute. Je travaille avec eux par le biais d'agents de convivialité, mais aussi par l'association, car on amène à manger chez des personnes, mais on travaille aussi avec les mairies. On est en lien étroit avec les mairies, la gendarmerie de Serranon, dont le chef est incroyable. Dès qu'il y a un problème, on est en contact, il signale à notre association s'il y a quelqu'un en situation de précarité ou en péril, on est au courant. Donc on intervient, mais des fois il faut y aller doucement, on peut pas
forcer les gens.
Mais je connais les trois quarts des gens parce que on a un local sur Caille et quand on ouvre ce local, tous les gens peuvent venir parce que on peut manger, ils peuvent manger, c'est gratuit. S'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent s'habiller, se meubler, prendre des jouets. Et on finit par connaître les trois quarts des personnes en difficulté.
Ce sont un peu toujours les mêmes personnes que vous retrouvez finalement?
Ce sont toujours un peu les mêmes, mais je suis étonnée parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des bonnes situations et qui du jour au lendemain se retrouve sans pouvoir manger. Alors, je sais que des fois, on est jugé, on nous dit non, mais il faut pas aider n'importe qui, mais moi, j'aide pas n'importe qui, j'aide celui qui vient vers moi en me disant, j'ai pas de quoi manger, je pose aucune question, je donne à manger une fois, deux fois. À partir de la troisième fois, je demande à cette personne de se retourner vers l'assistance sociale pour avoir un suivi. Mais les deux premières fois, je demande rien. D'ailleurs, la troisième fois non plus, mais j'aide avec mon cœur parce que c'est très compliqué de venir demander à manger, surtout quand on donne des denrées, on ne sait jamais ce qu'on a. Et les denrées sont très limitées au niveau des dates. Du coup, je pense que quelqu'un qui vient nous demander à manger, c'est que vraiment, elle a vraiment besoin. Et souvent, ça se fait la nuit parce qu'elles ont honte, elles ne veulent pas être reconnues.
Et de ce point de vue-là, vous travaillez également alors, avec des services sociaux comme les CCAS, par exemple ?
Non, il n'y a aucun CCAS chez nous. Je travaille avec les assistants sociaux, avec les maires. Parce que les maires nous avertissent, surtout le maire de la commune de Lemas, qui est très actif, qui est à nos côtés. Le maire de Val-d'Aurour aussi, la commune où je vis. Dès qu'il y a des signalements, des choses qui voient, par exemple, qu'une personne n'a pas de pétrole pour chauffer ou les placards commencent à se vider, ben là, on intervient. Je prends mes enfants parce que c'est plus facile avec des enfants.
Vos enfants vous accompagnent pour donner un coup de main également dans le cadre...
Oui, surtout ma fille de 10 ans, Kimi.
D'accord, ça c'est donc essentiellement le week-end.
Le week-end et le soir, et toutes les vacances, puisque toutes mes vacances, je les...
J'allais dire, vous prenez des vacances aussi. De temps en temps, vous ne vous arrêtez jamais.
Une fois par an, mais on n'a pas le temps, et puis tant qu'on est actif, on est vivant, c'est ce qu'on dit.
Exact. J'aimerais qu'on en vienne maintenant justement à votre association, les Cristaux du Cœur. D'abord, pourquoi ce nom, les Cristaux du Cœur ?
Alors, les Cristaux du Cœur, parce que je m'appelle Christine, parce que je suis croyante, j'ai la foi, parce que sinon, je pense que je le ferai pas. On est tous bénévoles dans notre association, personne n'est rémunéré, et il faut avoir sacrément la foi, surtout de nos jours, pour faire ce qu'on fait.
D'accord. Et alors, quelle est l'histoire de cette association ? Quel a été, je dirais, le point de démarrage qui a créé ça ?
Le point de démarrage, c'est que donc, j'étais employée pour la mairie d'Andon, où donc, je faisais partie du CCAS et je faisais ce que je fais aujourd'hui, mais j'étais rémunérée. Je vendais des vêtements, je m'occupais de la nourriture et je vendais des meubles. Quand la mairie a changé, en 2021... ils ont fermé la friperie. Et du coup, je suis devenue agent de convivialité, mais les gens que j'ai aidés pendant 5 ans m'ont dit « Tu peux pas nous laisser tomber, on va faire comment ?» Je leur ai dit « J'ai un travail maintenant, je peux pas faire les deux. » Mais j'ai quand même fait les deux, j'ai ouvert l'association et c'est grâce aux gens, en fait. Les gens...
sont eux qui vous ont quasiment sollicité pour créer une association. Et du coup, vous êtes combien de personnes dans cette association ?
On est à peu près une dizaine de bénévoles fixes, mais on a de plus en plus de gens qui viennent vers nous et qui veulent nous donner absolument les vêtements, les meubles, parce qu'ils savent que nous, on va les redonner aux gens dans le besoin. Alors, comme j'explique aux gens, quand on a un surplus, parce que forcément on a tellement de dons qu'on a un surplus de meubles et de vêtements, on expose de tout sur notre parking, même s'il fait moins 20 degrés, on est là le week-end. Sauf s'il pleut, parce que c'est pas couvert. Et donc les gens s'arrêtent, prennent ce qu'ils veulent et donnent ce qu'ils peuvent.
D'accord. Et ce sont les bénévoles qui font tout le travail de récolte des dons ?
Non, il y a beaucoup de gens qui viennent.
Qui viennent spontanément ?
Oui, qui viennent avec des camions remplis.
Ce qui veut dire que vous commencez à être connu dans l'arrière-pays, j'imagine.
Oui.
Et vous avez les moyens, effectivement, d'aller voir, ensuite, vous proposer tous ces vêtements, cette nourriture peut-être également aux gens, mais il faut avoir les moyens d'aller les voir, de circuler. Donc, vous avez des véhicules, vous avez un budget pour fonctionner, en fait.
Alors, on a un véhicule, on a mis une cagnotte en ligne, on a récolté 6 000 euros l'année dernière, et Gilles Vessière, qui est un ancien rapide international, a mis lui les 8400 euros restants pour qu'on puisse accéder, pour qu'on puisse avoir un véhicule. Il a floqué le véhicule, donc on a un Kangoo qui est floqué donc au nom des Cristaux du Cœur. Et c'est ce véhicule qui nous sert à récupérer les denrées alimentaires et qui le soir nous permettent d'aller à Conségude, à Plan-du-Var, à Nice, donner à manger aux personnes qui sont surtout recommandées par l'assistante sociale.
D'accord. Ben voilà, le décor est posé. Dans une seconde partie, nous allons rentrer un peu plus dans justement ce qui fait votre quotidien. Mais nous allons d'abord prendre le temps d'une pause musicale pour écouter « Je suis fou » de Vianney, Kenji et Soprano.
Pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire pour des billets, pour un empire. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et toi, contre le nous, j'y donnerai le monde sans le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi, qui tends la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou. Je suis fou. On va déjà se changer soi. Oh là là.
Et toi, qui a troqué le jeu contre le nous, qui donnerait le monde sans le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi, qui tend la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout.
Nous poursuivons notre émission Parlons des droits humains qui parle aujourd'hui de la précarité, de la solidarité essentiellement dans le haut pays grassois. Donc nous avons avec Christine Boada évoqué son parcours atypique au niveau professionnel puisque vous avez un poste d'agent de convivialité dans le haut pays de Grasse qui est a priori plutôt original. Nous ignorons totalement que ça existait. Et en parallèle, ou en imbrication, un poste de bénévole en tant que présidente de l'association des Cristaux du Cœur. Donc, vous aviez évoqué l'origine, effectivement, des Cristaux du Cœur. Vous indiquiez que vous avez une dizaine de bénévoles. Est-ce que vous arrivez à quantifier le nombre de personnes que vous aidez actuellement ?
Au niveau alimentaire, on aide à peu près 300 personnes. Au niveau des paniers alimentaires, alors
comment ça se passe? Parce que il y a des associations qui collectent de la nourriture, qui la distribuent. Il y en a qui font venir les personnes pour qu'elles viennent prendre des paniers. Il y a des associations qui font participer à des repas. Comment vous fonctionnez au niveau de l'aide alimentaire?
Alors, au niveau de l'aide alimentaire, on travaille avec plusieurs mairies du haut pays où on a fixé un jour par semaine où on va déposer la nourriture. Et c'est le maire ou les employés qui distribuent la nourriture à leurs bénéficiaires. Mais ce que nous faisons beaucoup, le plus souvent, c'est que nous allons chez les personnes, chez toutes ces personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de voiture. Donc l'assistante sociale fait appel à nous en nous disant, dans le village de Bro, situé pas loin d'Anotte, dans le 04, il y a un monsieur qui a besoin de manger, donc on prend le véhicule et on va chez ce monsieur. Et on a beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, sur les 300 personnes qu'on nourrit par semaine, on en a 150 chez qui on va, et 150... on dépose dans les mairies et c'est les mairies qui prennent le relais.
Et donc, est-ce que vous avez comme type de produit de l'épicerie collectée auprès de supermarchés, du produit frais auprès de maraîchage, des stocks de la banque alimentaire?
Non, on n'a pas encore l'habilitation. On a fait la demande, on attend la réponse.
L'habilitation pour la banque alimentaire?
Oui, pour la banque alimentaire. Oui, pour avoir la partie sèche que l'on n'a pas. On va récolter les denrées. Mon compagnon va récolter bénévolement les denrées dans 6 magasins. Ça commence dans le 04 à Castellane, Entrevaux, Puget-Théniers, Gatières, Nice, et je me rappelle pas le sixième.
Mais justement, on a du mal à comprendre comment dans le haut pays grassois, vous soyez obligé d'aller à Nice, puisqu'à Nice, il y a des associations qui collectent aussi des denrées. Est-ce qu'il n'y a pas plus proche, Grasse ou Warcannes, ou qui pourrait vous aider? Alors, comment vous avez déterminé ces aides-là, ou comment vous ont-ils trouvé?
En fait, c'est nous qui avons démarché au début. On a fait des demandes dans plusieurs magasins, hypermarchés. On est venu du côté de Grasse, mais les magasins de Grasse ont déjà... pris par plusieurs associations qui sont implantées à Grasse et dans les alentours. On a trouvé ces 6 magasins du côté de chez nous, où tous les jours, pratiquement, on va récupérer les invendus, tout ce qui est frais et les légumes.
D'accord, donc ce ne sont pas des plats préparés. Vous nous expliquez
à un moment donné
qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment de cuisine et pour lesquels, effectivement, il aurait fallu avoir des plats à faire réchauffer. Alors, ça, vous les trouvez par ailleurs?
Non, on va les acheter. On les achète. Quand D'accord. on ouvre nos locaux le week-end, s'il fait beau, l'argent qu'on récolte nous permet d'acheter cette partie sèche qu'on n'a pas, les produits, les couches, les produits d'entretien, les gels douche, l'hygiène, le riz, les pâtes, les plats cuisinés, les sauces tomates, voilà, tout ce que les magasins ne nous donnent pas.
Oui, donc vous auriez effectivement besoin d'un apport par rapport à tous ces produits qui sont aussi essentiels.
Oui, mais ça fait 5 ans qu'on existe et on y arrive.
Et est-ce que vous avez des moments où vous faites des repas pour rassembler ces gens, où effectivement ces gens, comme ils sont isolés dans diverses communes, ne se regroupent pas, ne se connaissent pas? Ou est-ce que vous avez des journées où vous vous dites on fait un repas convivial avec les gens qu'on aide?
Alors, nous les repas, une fois par an, le 24 décembre, toute la journée, on distribue 120 repas, on va chez les gens et on confectionne nous-mêmes 120 repas qu'on distribue avec des cadeaux à toutes les personnes isolées qui ne font pas Noël avec leur famille. Parce qu'on a quand même 300 personnes par semaine, mais au moment de Noël, ils se réunissent tous. Nous, on cible le 24 uniquement ces personnes qui sont toutes seules, qui font Noël toutes seules.
Ce sont les personnes isolées, soit oui. des personnes âgées, soit des familles monoparentales.
Voilà, c'est ça.
Parce que vous aviez évoqué aussi des couples qui avaient des difficultés de financement, mais oui. qui étaient en famille, on va dire.
Oui, on aide aussi les familles. On a des couples avec 3 enfants qui s'en sortent pas parce qu'il y a un coup dur, parce que on a aidé une petite fille du côté de Consigude qui avait un cancer, donc tout n'est pas remboursé, ça coûte très cher et on a amené à manger plusieurs fois pour aider cette famille.
Vous avez évoqué aussi l'habillement. Donc vous faites des friperies, vous collectez des vêtements ou vous en achetez, je ne sais pas.
Non, on a beaucoup de dons. On a beaucoup, énormément de dons. Je ne devrais pas le dire, mais on a trop de dons par rapport au local qui fait 200 mètres carrés. On reçoit des dons pour un local de 8000 mètres carrés au moins.
Votre local, il est à
Caille.
Il est à Caille. Donc celui-là, il vous a été attribué par une municipalité?
Non, c'est un particulier qui nous le loue.
D'accord. Et donc là, vous stockez effectivement ce qui est friperie. C'est un peu le problème de toutes les associations, hein. C'est compte tenu de la débauche de vêtements achetés et non consommés, il y a beaucoup de dons et parfois difficile à répercuter sur les gens qui en ont vraiment besoin. Et vous avez un autre volet qui est le logement.
Oui.
Alors comment vous procédez pour le logement? À la fois pour les meubles et pour les recherches de local, vous logez des gens?
Oui, alors on a un petit appartement dans la commune de Lemas où le maire est à nos côtés depuis le début de notre association il y a 5 ans. Dans cet appartement, on accueille des gens qui sont à la rue, qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain. On les accueille gratuitement chez nous. Il y a une chambre, une petite salle à manger, une salle de bain. Et voilà. Et ces gens-là, quand on les accueille, ils mangent avec nous, ils font le petit déjeuner, tout se fait chez nous, dans la maison qui est juste en face.
D'accord, quand vous dites c'est chez nous, c'est...
L'association.
D'accord, pas dans votre domicile.
Non, pas dans mais ça m'est déjà arrivé de prendre des gens dans mon domicile à Val-d'Aurour, parce que je n'avais pas encore le logement en masse.
Et comment vous, enfin, ces gens-là, vous pouvez les rencontrer dans la rue ou parce qu'on vous les signale? Vous avez dit tout à l'heure que vous ne les, enfin, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de. Comment vous savez quels sont exactement leurs besoins? Est-ce que c'est votre travail d'agent de convivialité? Est-ce que c'est votre rapport avec les assistantes sociales? Est-ce que c'est des rencontres? Comment, enfin, je veux dire, les gens qui en sont dans le besoin souvent le cachent.
Oui.
Donc comment vous arrivez à savoir qu'ils sont dans le besoin?
C'est les gens qui nous contactent et qui nous disent. En face de chez moi, il y a deux personnes qui dorment dans la voiture depuis une semaine.
Et vous avez déjà eu ce cas?
Oui, plusieurs fois.
Par exemple, vous avez un exemple à nous citer de...
Alors, il y a 3 ans, une dame qui habitait à Théoul m'a appelée pour me dire qu'en face de, sur le parking où elle stationnait sa voiture, il y a un couple de personnes âgées qui dormaient là depuis plusieurs mois. Donc, je lui ai dit, je suis au MAS, Théoul, c'est pas la porte à côté. Je sais pas trop ce que je peux faire parce qu'il y a ce qu'il faut sur place. Elle m'a dit non, justement, le CCAS, tout ça, ne peut rien faire pour eux. Alors, j'ai chargé ma voiture de nourriture, de couverture, et je suis allée à la rencontre de ce couple que je connaissais pas. Je suis arrivée à Théoul à 22h. On a amené de l'eau chaude, on a amené des croissants, de quoi manger, des petits plats cuisinés. Je leur ai demandé de quoi ils avaient besoin. Et mon compagnon qui était là à ce moment-là a dit au monsieur, je peux pas te laisser dans la rue. Demain, on viendra te chercher, tu viendras chez nous.
Et vous l'avez accueilli à votre domicile?
Oui, le lendemain, on est allé le chercher avec sa femme. Et ils sont venus chez nous, c'est les premières personnes qu'on a logées.
Et pendant combien de temps sont-ils restés chez vous?
Ils sont restés chez nous 1 mois et demi parce qu'il est décédé.
D'accord. Il avait effectivement aussi des problèmes de santé.
Oui.
Donc vous lui avez permis de vivre une fin de vie un peu plus honorable, oui. Enfin plus facile que dans son véhicule.
Et j'ai regretté à ce moment-là que cette dame ne m'ait pas appelée 6 mois avant.
Et est-ce que vous arrivez à faire remonter ce genre de dysfonctionnement, je dirais, on ne parle pas du point de vue humain, mais du point de vue organisationnel, que ni les CCAS, ni les structures d'urgence n'arrivent à prendre en charge ce genre de personnes?
Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de personnes dans la rue, et il n'y a pas assez de structures. Du coup, c'est pas facile. Je ne pense pas que ce soit leur faute. Même moi, je n'arrive pas à aider tout le monde. J'aimerais, mais des fois, je ne peux pas aider tout le monde.
Oui, je le conçois. Puis vous n'êtes pas la seule. Il y a d'autres associations, etc.
Bien
mais
sûr.
Structurellement, est-ce que vous avez des perspectives d'amélioration ou par rapport à ce sujet-là? Ça paraît toujours aberrant que dans notre société actuelle, on laisse quelqu'un dans sa voiture, je dirais, aller jusqu'à la mort.
Oui, c'est aberrant.
Vous savez pas vers quelle organisation ou administration on pourrait faire monter ça?
Moi, à chaque fois que j'ai eu un problème du côté de Grasse et que j'ai eu affaire à Monsieur Viau, le maire de Grasse. Il a toujours trouvé une solution. J'ai un jeune homme qui dormait dehors. Le maire de Grasse n'a pas hésité à la mairie à le mettre dans un hôtel et à payer une semaine d'hôtel. Et là, Monsieur Viau a fait les démarches ensuite pour qu'il ait un appartement.
D'accord. Donc en fait, c'est vraiment des relations de personne à personne.
Oui.
Pour vous, vous êtes plus dans l'aide personnelle, de personne à personne, plutôt que dans le structurel. Parce qu'il y a d'autres associations qui travaillent aussi dans le structurel, oui. Mais plutôt au niveau national ou autre.
Oui. En fait, si j'avais pas un travail, j'aurais peut-être le temps de plus développer mon association, mais vu que j'ai un travail, la journée, elle est passée 24 heures, c'est pas suffisant.
Effectivement. Et dans le côté logement, vous aviez évoqué tout à l'heure aussi, vous avez dans votre local aussi des meubles.
Oui.
Donc là aussi, les gens peuvent vous déposer des meubles.
Oui,
ou des...
bien sûr.
Et
bien
vous les mettez à disposition.
Oui.
Alors, on a parlé de gratuité ou pas. C'est-à-dire que les vêtements et les meubles que vous mettez à disposition sont tous attribués gratuitement ou vous pouvez permettre à n'importe qui de venir comme dans une friperie normale et de contribuer en payant leurs vêtements ou leurs meubles?
Ah oui,
vous avez
oui,
les deux systèmes. Hein.
Tout le monde peut venir et maintenant je connais les gens depuis le temps. Tout le monde peut venir et dans une boîte, les personnes mettent ce qu'elles veulent et à la fin de la journée, on a la surprise.
D'accord.
Et pour en revenir aux meubles, il y a 2 ans, il y a eu le feu dans le vieux Grasse.
Oui.
Le CCS de Grasse m'a contacté pour me demander si c'était possible de meubler 2 personnes. Et donc, on est venu gratuitement mener les meubles. Voilà, on fonctionne comme ça. On pose pas de questions, on nous demande de l'aide, Et on a meublé deux appartements. Voilà, parce qu'en fait, on est très réactif. Nous, la particularité qu'on a, je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est que on nous demande de l'aide. Dans la journée, on va exécuter, on va faire le nécessaire. On n'attend pas après des papiers, après... je sais que les CCS et toutes les structures, c'est compliqué parce qu'il faut passer par l'assistance sociale, il faut passer par si... Moi, je passe par mon cœur. On a besoin d'aide, je suis là. Si c'est pas moi, c'est mon compagnon ou c'est mes bénévoles qui vont se déplacer, amener à manger, amener des granulés, parce que ça nous arrive d'acheter des granulés, des stères de bois.
Les granulés pour le chauffage.
Oui, oui. Des aliments pour le chat, parce qu'il y a des personnes souvent qui arrivent à manger, mais elles me disent je peux pas acheter pour mon chat ou mon chien. Donc on va acheter pour le chat ou le chien. Après, oui. Je vérifie pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Moi, c'est fait avec mon cœur. Et...
Oui, l'avantage de votre structure et de votre engagement personnel fait que vous avez une grande souplesse pour être plus réactive. Oui. Et justement, quelles sont les associations, les structures, enfin les associations avec qui vous travaillez le plus régulièrement? Les CCS et municipales, mais est-ce qu'il y a d'autres associations qui vous contactent ponctuellement pour un besoin?
Je travaille beaucoup avec l'association Une Voix pour Elle,
qui est...
C'est l'association des femmes battues.
D'accord.
Qui œuvre sur Grasse et un petit peu partout. Qui sont Loéticia et quelqu'un d'exceptionnel. Quand je manque de produits de shampoing, elle m'appelle et je vais récupérer une dizaine, une vingtaine de produits, de couches.
Et ça vous est arrivé d'héberger des personnes de cette association, enfin accueillies par cette association, ou vous faites le relais ou pas?
Alors l'année dernière, le 25 décembre, la gendarmerie de Serrano m'a contactée pour me signaler qu'ils avaient une personne, une dame battue, et que ben on est le 25 décembre, tout est fermé.
Oui, donc vous avez.
Donc on l'a accueillie chez nous. On s'est mis en relation tout de suite avec l'association Une Voix pour Elle et Sandrine Cosso, qui travaille aussi pour les femmes battues, qui est première adjointe à la mairie d'Aiglun. Mmh. Et avec elle, on a fait le nécessaire pour que cette femme soit mise à l'abri.
D'accord. Et souvent, les associations souhaitent que les personnes aidées ou accueillies puissent évoluer, puissent se sortir effectivement de la précarité, en devenant un peu acteur du changement de leur vie. Est-ce que vous arrivez, dans cette aide d'urgence que vous apportez, à les aider à se prendre en charge un peu plus? Il y a des fois où, des périodes où c'est pas possible, parce qu'ils sont vraiment dans une grande précarité, mais ensuite, le but, c'est qu'ils puissent rebondir. Comment vous procédez? Est-ce que vous avez des exemples de gens qui ont retrouvé du boulot, qui se sont investis dans votre association à leur tour?
Alors, sur 22 personnes, parce qu'en 2 ans et demi, on a hébergé 22 personnes, j'ai envie de dire que la moitié a évolué, l'autre moitié, non. Parce qu'il y a des personnes, on a beau les aider, on a beau les sortir de la rue, elles veulent pas faire leur part du marché. Moi, je peux pas faire les choses à leur place. Je veux bien prendre des rendez-vous, mais il faut qu'elles y aillent. Et j'ai des personnes qui ne vont pas jusqu'au bout, qui abandonnent, qui repartent dans leur famille, mais les 3/4 des gens ne sont pas retournés à la rue. L'exemple que je pourrais citer, c'est donc la dernière famille que j'ai accueillie, qu'on a accueillie à l'association au mois d'avril 2025. Un papa qui me dit que le lendemain, il va être à la rue avec sa femme enceinte et ses 2 enfants. On est allé le chercher, on l'a pris chez nous. Aujourd'hui, grâce au maire du Mas et à toute son équipe, il loue un logement dans la commune de Le Mas. Il est employé, il nettoie les gîtes. Un garage qui est sur Cannes nous a offert une voiture. On lui a offert la voiture. Donc, il peut amener ses enfants à l'école. Voilà, ça, c'est une réussite.
Ah oui.
Les autres aussi, c'est une réussite. Pour moi, il n'y a pas de défaite parce que je fais avec mon cœur. Je donne ce que j'ai, ma sincérité, ma bienveillance et ma gentillesse. Si on fait pas le nécessaire, je me sens pas coupable parce que j'ai fait ce qu'il fallait.
Et du coup, est-ce que vous avez des exemples négatifs de gens qui ont un petit peu abusé de vous, qui sont allés trop loin dans les demandes? Ça doit exister aussi.
Oui, j'ai eu des gens qui ont commandé des colis à l'adresse où j'étais, et après ont dit qu'ils n'avaient pas reçu. Du coup, ça m'a fait des problèmes. J'ai des gens qui m'ont volé des choses, qui m'ont vidé le petit peu d'alcool. On n'a pas beaucoup d'alcool, mais les boissons. Oui, j'ai des gens qui ont fumé du shit. J'ai de tout, mais.
Et comment vous vivez ça? Par rapport à la générosité dont vous témoignez et justement à ce don
Ça m'arrête pas, je continue. C'est pas parce qu'une personne est mauvaise que celle d'après va être mauvaise, donc je continue.
Ça vous décourage pas ?
Non, pas du tout.
Et comment vous arrivez à vous protéger, parce que, et protéger vos enfants aussi, parce que face à cette détresse, ça doit être difficile. On peut accueillir des confidences, vous expliquer que vous convoyez les personnes, je pense que quand vous les convoyez, ils vous parlent, elles vous parlent. Comment vous arrivez à vous protéger ?
Alors je me protège pas parce que moi je suis quelqu'un de nature. On me dit ton travail tu dois mettre une barrière. Je mets pas de barrière parce que je sais pas faire ça. Ma mère elle m'a pas appris à faire ça. Elle m'a appris à aimer, à donner et du coup je mets pas de barrière. Je mélange tout, c'est pas bien mais je mets pas de barrière et je veux pas non plus trop protéger mes enfants. Je veux que mes enfants se rendent compte de la vie actuelle. De moi petite j'ai pas été protégée, j'ai été aimée. Et je suis contente de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je suis quelqu'un de gentil, de bienveillant, de serviable. On me dit que je suis bête, que je suis trop gentille, que je me fais avoir. Mais c'est pas grave, c'est ma nature. Et quand je me couche le soir, je me couche avec l'esprit tranquille.
Et dans votre association, au-delà de l'aide alimentaire, votre site, effectivement, parle d'un accompagnement social et un soutien psychologique. C'est ce que vous faites, vous, en étant en direct avec eux, ou vous avez des personnes qui vous aident, des professionnels, des psychologues ou d'autres qui pourraient vous aider justement dans ce soutien psychologique des gens aidés ?
Alors, les personnes qui sont en détresse ne veulent pas aller voir quelqu'un. Oui. Ne veulent pas souvent parler. Alors, ce que je fais, c'est que je les prends à mon association, parce qu'il y a du travail quand même, il faut trier le linge. Et du coup, elles n'ont plus le temps de penser. Et ça fait que le week-end, on se retrouve une dizaine, une douzaine de personnes à manger autour de la table, à faire du bénévolat, à parler avec d'autres personnes. Ça crée des liens, ainsi de suite, et des petites fourmis qui se multiplient. Et après, ces personnes vont mieux. Ensuite, quand je vois que c'est trop grave ou qu'elles sont trop affectées, je leur conseille d'aller voir un psychologue ou le médecin. Mais après, je les accompagne pas jusque-là.
Non, mais en fait, là, vous liez deux choses, à la fois le soutien et la réinsertion, et le fait que c'est un moyen aussi pour rebondir. Donc ça reprend la question de tout à l'heure, c'est un des moyens pour effectivement de les faire participer aux activités, de devenir acteur au lieu d'être simplement receveur de dons. Alors, est-ce que vous avez besoin de faire connaître davantage votre association, compte tenu du réseau relationnel que vous avez évoqué, ça semble pas, mais quelque part, est-ce que on devrait vous connaître plus? Et de quels moyens vous auriez besoin ?
Alors, être connue plus, non, parce que je fais déjà ce que je peux avec le peu de temps que j'ai. Si je suis plus connue, je ne pourrais pas répondre peut-être à toutes les demandes. Je pourrais pas. Moi, je veux être sur le terrain. Je veux aller chez les gens, donner à manger. Je veux pas que ce soit une autre personne qui aille. Je veux que ce soit moi. Donc, je préfère rester comme je suis.
Donc vous préférez effectivement cette échelle-là parce que vous êtes plus proche des gens.
Déjà.
Et donc pour continuer à fonctionner même en l'état, vous avez un véhicule, vous avez un local. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Donc des supermarchés plus proches qui vous aident ou des sources d'approvisionnement plus proches ?
Oui, mais j'ai des gens aussi qui font des collectes alimentaires pour nous. Sandrine Jodard, elle fait des collectes dans les magasins, donc ce qui nous permet d'avoir. Nous aussi, on en fait. On en fait à peu près 3 par an. Collecte alimentaire, c'est le manque de temps en fait. Si j'avais plus de temps, je ferais plus de choses, j'aiderais plus de gens, mais.
Ben, c'est déjà un beau résultat à 300 personnes. Et en fait, est-ce que vous avez vu parmi les gens qui pourraient vous aider et qui ne le font pas des freins par rapport à la précarité ? Il y a un certain nombre de préjugés dans notre région, notamment par rapport aux migrants. On a déjà entendu, mais on les paye, on leur paye un logement, etc., alors que ça ne concerne que les demandeurs d'asile. Ils vont mendier, mais ils pourraient se bouger, trouver un boulot. Comment vous arrivez à démonter ces freins ? Et est-ce que dans l'arrière-pays, le fait que les gens soient dans des petits villages fait que la solidarité est plus importante et que ces préjugés sont moins prégnants ?
Alors, on a des préjugés, bien sûr. On a des gens qui disent que avec l'argent de l'association, je vais au restaurant, mais pas du tout. Pas du tout, mais on peut pas empêcher les gens de parler. Moi, j'ai des personnes à qui je donne à manger qui, une fois que j'ai le dos tourné, me rhabillent pour 10 hivers. Je le sais. Alors, ce que je fais, c'est qu'en partant, puisque je le sais, je leur fais un câlin.
Je voulais déstabiliser.
Ça va les adoucir, je sais pas, mais malheureusement.
Ça doit les déstabiliser déjà.
L'être humain d'aujourd'hui, on a beau faire tout ce qu'on peut, mettre tout son cœur, il y a toujours des gens qui vous critiqueront, qui sont pas contents. Plus d'une fois, j'ai voulu arrêter, oui, bien sûr. Plus d'une fois, j'ai voulu arrêter, mais il y a toujours quelqu'un qui vous dit non. Donc, un exemple, il y a plus d'un an, une dame sur Castellane qui me demande un panier alimentaire. Je lui dis, je serai là dans 2 heures. Si j'étais arrivée, je crois, 1 heure de plus, elle avait déjà préparé la corde pour se pendre. Quand je suis arrivée, il y avait la corde pour se pendre et je suis rentrée. Et le fait que je parle avec elle, que je suis restée plus de 2 heures chez elle, elle m'a dit, si vous n'étiez pas venue, je ne serais plus là. Alors, c'est dur parce que des fois, je dis aux gens que je viens, mais j'ai dit, j'ai un contretemps, donc je viendrai plus tard ou demain. Et j'y suis allée. Si je n'étais pas allée... Je dis pas qu'elle s'est pendue à cause de moi, mais le peu que je lui ai ramené dans ce panier de nourriture, depuis on est en contact et elle va beaucoup mieux, elle va voir, elle se fait suivre maintenant. Mais comme quoi, les petites choses qu'on fait peuvent sauver la vie de quelqu'un. Alors les remarques du style, elle va au restaurant, elle fait ci, vous voyez, je sais pas. Hein, moi, je suis toujours comme ça. J'ai pas fait ma couleur depuis 8 jours. Je prends pas soin de moi parce que j'ai pas le temps. Parce que il y a trop de gens qui sont dans un mauvais état. Et du coup, l'apparence, je m'en fous. Faudrait pas parce que bon, je suis pas encore vieille.
Mais... Bon, on n'a pas l'image, mais je rassure nos auditeurs. Oui. Vous êtes une belle personne, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup de votre témoignage. Nous allons prendre le temps d'une dernière pause musicale avant la conclusion en écoutant un de nos héros du quotidien de Soprano.
On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie.
Eh bien, nous terminons ce soir notre émission Parlons des droits humains consacrée au thème de la précarité et de la solidarité avec notre invitée Christine Boada, donc qui est présidente de l'association Les Cristaux du Cœur. Donc merci pour tous les témoignages que vous nous avez donnés, Christine. Et j'aimerais, pour conclure cette émission, que vous nous disiez quel message vous souhaiteriez faire passer aux auditeurs qui nous entendent ce soir.
Alors en tout premier, je voudrais vous remercier à tous de votre accueil chaleureux et bienveillant.
Merci.
Alors le message que j'aimerais faire passer, c'est que j'aimerais que chaque personne soit bienveillante et polie avec son voisin ou avec les gens qu'on croise dans la rue. Parce que si chaque personne donnait quelque chose à l'autre, je pense que le monde irait mieux et j'aurais peut-être plus de travail, je ferais peut-être plus de bénévolat, mais quelque part ça veut dire que j'aurais réussi un petit peu.
Et bien, merci pour ce message bienveillant.
Et je voudrais aussi, pour terminer, remercier Emmanuel Crulli, chef cuisinier, qui chaque année fait des repas gratuits, monte dans la montagne, fait des repas gratuits pour les personnes en difficulté. Je voudrais le remercier.
Eh bien voilà, merci beaucoup Christine, le message est passé. Nous remercions effectivement Agora pour notre encadrement, et je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission que vous pouvez télécharger sur le site d'Agora Côte d'Azur. Par ailleurs, je vous rappelle que cette émission est rediffusée le premier lundi de chaque mois, 21h, sur Agora. À bientôt et bonne soirée à vous.